Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui.
L'équipe de Cinérama aura-t-elle vu un bon film aujourd'hui ? Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, est-ce qu'on peut répondre d'ores et déjà à cette question ou pas, Marine ?
Alors moi, 1 sur 2. Oui, une bonne surprise avec Une vie entre deux océans de Direction de France. Et par contre, un film que, bon, je vais me faire un plaisir d'un petit peu descendre, c'est-à-dire Bridget Jones, Baby.
Et toi Manu ?
Ben, je peux dire que oui, avec le nouveau film de Jodorowsky, la suite de son précédent, hein, Poesia, Sin Fin. Et puis j'évoquerai aussi une sortie DVD, le très beau Nos funérailles d'Abel Ferrara.
Et puis, eh bien, en ce qui me concerne, ce sera ni oui ni non pour L'Odyssée, film de Jérôme Salle, autour eh bien, du commandant Cousteau. Et puis l'interview de cette émission après Karim Dridi la semaine dernière, eh bien, ce sera Sacha Wolf pour un très bon film qui s'appelle Mercenaires. C'est son tout premier, c'est Cinérama.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
L'actualité cinématographique nous offre parfois des télescopages intéressants et qui en disent long sur la culture et la production cinématographique de chaque pays. Pour preuve, eh bien, le télescopage du 12 octobre. Ce mercredi-là sortent deux films qui se passent en partie sur l'eau et sous l'eau. Alors d'un côté, il y a Deepwater, film catastrophe de Peter Berg avec Mark Wahlberg, donc un film avec des consonances en berg, dont l'intrigue se passe sur une plateforme pétrolière qui va exploser. C'est un joyeux programme. Et puis de l'autre, eh bien, nous avons L'Odyssée de Jérôme Salle avec Lambert Wilson et Pierre Niney. Et on peut ajouter eh bien, Audrey Tautou. Alors là, il s'agit de l'Odyssée du commandant Cousteau, homme qui a dompté pour le cinéma et la télévision les océans et ce qu'il cache. Deux projets cinématographiques bien différents, donc, et je me garderai bien de vous parler de Deepwater, que j'ai préféré ne pas voir pour le manque de surprise que la bande-annonce annonçait. Alors, en revanche, parlons donc de l'Odyssée. Les moins de 20 ans, en règle générale, ne connaissent pas le commandant Cousteau. Les moins de 30 ans, pas plus, et les moins de 40 ans, à peine. Cousteau et sa Calypso, je précise donc qu'il s'agit de son bateau, est davantage connu par les générations d'après. En tout cas, en regardant l'Odyssée, qui est donc un biopic de Cousteau, je me suis rendu compte que j'en connaissais le nom, j'en avais vu des images, mais je n'en savais finalement pas grand-chose. Et le film de Jérôme Salle donne une explication. C'est que l'Odyssée filmique du commandant Cousteau a été produite pour une grande partie, par les Américains. Donc rien d'étonnant à ce que Wes Anderson s'en amuse dans La vie aquatique, parce qu'immédiatement, l'image d'un vieil homme avec un bonnet rouge filant sur un canot pneumatique, eh bien voilà qui parle aux Américains.
Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir.
Qu'est-ce qu'on entend ?
Avec un budget trois fois inférieur à Deepwater, dont on parlait au tout début, mais tout de même bien conséquent pour un film français, eh bien, l'Odyssée ne nous joue pas le scénario catastrophe. Non, il nous raconte donc l'histoire d'un homme qui a eu envie d'explorer les océans, d'un entrepreneur, mais aussi l'histoire d'un mari et d'un père. Nous ne sommes pas dans l'hagiographie. Le commandant eh bien, pourrait d'ailleurs perdre quelques galons auprès de ses admirateurs. À pas du gain, certes, pour continuer ses explorations. Compromission avec l'industrie pétrolière française, avec la recherche de champs pétrolifères. Absence de réflexion dans les premières années sur l'écosystème maritime. Marivolage prête à s'offrir toutes les escapades amoureuses pourvu que la fille soit jeune. Voilà, qui n'est pas tout à fait glorieux et qui donne une dimension particulière à cette odyssée qui s'attache eh bien, à nous montrer un commandant Cousteau surtout engagé dans ses projets, ce qui le conduit un moment à être le patron eh bien, de près de 200 salariés, et ça j'avoue je l'ignorais, à être un commercial pour trouver de quoi eh bien, produire ses films, et qui nous montre également ce film quel père et mari absent il pouvait être. Alors le film de Jérôme Salle fait intervenir deux personnages empêchant le réalisateur d'appeler son film Cousteau ou Jacques-Yves. D'abord, il y a la femme du commandant, Simone. Alors, il s'agit de la capitaine de la Calypso, incarnée par Audrey Tautou, alors plus titi parisienne que méridionale, hein, qui partage d'abord un projet avec son mari avant de devenir une femme de navire, à défaut d'être une femme de maison. Alors, Simone ne se montrera que rarement à la télévision et pourtant, eh bien, sera de tous les tournages. Voilà le film qui la met dans la lumière. Et puis, il y a l'un des fils de l'aventurier, une primogéniture incarnée par Pierre Ninet, un homme partagé entre fascination, dégoût et révolte. Ces deux points de vue nous permettent de mieux cerner le commandant Cousteau. Alors cet homme qui au début du film est montré dans un cadre idyllique avec une maison au bord d'une crique varoise, eh bien, ne va cesser d'évoluer entre déchirure familiale, mégalomanie et une bonne dose d'égocentrisme.
Calypso.
Tu vas pas acheter ça?
Ah bah c'est déjà fait.
Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser.
Les Américains partent à la conquête de l'espace, et bien nous partons à la conquête de la mer.
T'es prêt à faire n'importe quoi pour du fric, en fait?
De quoi tu parles?
Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo, comme t'aimes, hein. Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo. C'est les...
Je t'aimerais toujours.
T'es un bon parleur, Jacques.
Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. Je voulais le conquérir. Alors qu'en fait, il fallait le protéger.
Mais il est encore temps.
Alors évidemment, la bande-annonce, elle fait peut-être 2 minutes 50, je l'ai réduite à 50 secondes, mais on a tous les éléments vraiment du film. Alors on voit de belles images, des fonds sous-marins, ainsi que des animaux qui les peuplent. La lumière est parfois trop éclatante, peut-être trop carte postale. Et si le film rend compte de l'aventure de la Calypso, la première grande exploration sous-marine, il rend également compte des rêves et de la complexité d'un homme qui a fini par embrasser la cause écologiste. L'interprétation de Lambert Wilson est délicate, hein, il s'agit de jouer quand même un vieillard, mais on se laisse porter en réprimant un petit rire quand il s'accoutre du bonnet rouge. Dans cette odyssée, il y a ce qu'il faut de belles images, de belles phrases, quelques moments drôles, d'autres tragiques. On voit très bien que l'histoire qu'on nous raconte est embelli. Alors, ça n'est pas un grand film, mais il permet, pour ceux qui ne connaissent pas le commandant, d'entrevoir le personnage, et puis pour les autres, eh bien, d'en apercevoir peut-être les aspérités. La facture est fixée à 30 millions d'euros, ce qui en fait un très gros budget du cinéma français. À ce prix-là, qu'on ne s'attende pas à beaucoup d'audace, malgré tout. Voilà. Ça sort le 12 octobre, l'Odyssée de Jérôme Salles avec Lambert Wilson, Pierre Ninet, Audrey Tautou.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Pas beaucoup d'audace non plus pour Bridget Jones Baby, c'est-à-dire Bridget Jones 3. Alors Bridget Jones a un gros souci, alors qu'elle a la quarantaine épanouie et tout pour être heureuse, bon, à part un mari, hein, elle se retrouve enceinte sans savoir qui est le père. Alors cela peut tout aussi bien être le fameux Mark Darcy, avec qui elle a une histoire à rebondissement depuis le premier épisode de ses aventures, ou ce nouveau bel être qu'elle a rencontré et qui lui plaît terriblement. Mais comment cela va-t-il finir?
Mais vous, vous vous êtes rencontrés comment?
C'est une histoire plutôt marrante, plutôt. Tu vois, il y a quelques mois, donc le 4 de ce mois-là, j'ai fait sa connaissance à un festival de musique.
Oh, bien.
Et ça a très bien accroché entre lui et moi, et disons qu'on a eu des relations. Et la semaine suivante, c'est-à-dire le 11 de ce mois-là, au baptême du bébé de Jude, pour être précise, et suite à une consommation assez sérieuse d'alcool, Marc et moi, on a eu le même genre de relation. Et c'est là où c'est drôle. Je suppose, en conséquence de ces relations, la forme de vie qui en résulte et qui réside actuellement dans mon ventre peut être en fait aussi bien de l'un que de l'autre.
Alors à cause de Bridget Jones, hein, j'ai longtemps cru que les femmes de 30 ans étaient systématiquement grosses, névrosées et dépressives. Bon, 15 ans plus tard, j'ai découvert que nous, on n'était pas forcés de porter des gaines à 30 ans et de vouloir absolument se marier avec Hugh Grant pour réussir sa vie. Mais Bridget a quand même imprégné l'imaginaire commun de façon indélébile, en s'affirmant comme l'incarnation de la célibatante. Alors en 2016, Bridget Jones n'a plus rien à voir avec le personnage inventé par Ellen Fiedling, et c'est bien dommage, car on se demande quel est l'intérêt du film si ce n'est de générer quelques millions d'entrées, sachant qu'en plus les distributeurs n'ont quand même eu aucun scrupule à le sortir en France avec une énorme faute d'anglais dans le titre. Les scénaristes semblent avoir oublié que ce qui faisait l'attrait de Bridget Jones, c'était bien sa maladresse et son côté loseuse attachante, le fait qu'elle n'arrive jamais à suivre ses régimes et qu'elle picome et fume comme toute bonne anglaise. Dans ce nouvel opus, eh bien Bridget Jones a un super poste haut placé à la télé. Elle a arrêté de fumer et presque de boire. Elle est heureuse car elle a perdu 20 kilos. Voilà, Bridget, dorénavant, mange aussi sainement qu'une blogueuse beauté. Elle a le dressing parfaitement à la mode d'une nana de 25 ans alors qu'elle en a 45. Elle va au festival de Glastonbury en backstage. Bref, sa vie, c'est celle de Kate Moss. Et du coup, on s'ennuie terriblement. En plus de renier le personnage principal et de s'affranchir totalement du livre dont il est censé être l'adaptation, Bridget Jones Baby donne une image de la femme assez déplorable. C'est en perdant du poids qu'on atteint le bonheur, coucher avec deux personnes différentes à une semaine d'écart, c'est mal. Et si on veut atteindre ses objectifs professionnels, il faut savoir être castratrice, manipulatrice et humilier les gens. Et Eh bien, tout cela va à l'encontre de la nouvelle vague de comédies romantiques américaines qui était plutôt progressiste et délurée. Bon, alors, en dehors de cela, soyons honnêtes, hein, ça reste bien moins pire que la moyenne des comédies françaises. La réalisation est rythmée, les ingrédients de la comédie sont réunis, mais ce troisième volet est quand même celui de trop, et en plus, le pire, c'est qu'ils vont nous en faire un quatrième. C'est sûr.
Celui de trop, parce que le premier était pas mal.
Ah bah, en comparaison, le premier, c'est un chef-d'œuvre.
Bon,
bah,
j'irai c'est pas ça, voir. C'est...
voilà, si vous
c'est
avez...
un chef-d'œuvre en comparaison.
C'est ça la règle. Hein. Si vous avez abandonné au premier, n'allez pas voir celui-ci, ce nouvel opus.
Certainement pas.
Qui est sorti le 5 octobre comme Mercenaire de Sacha Wolfe.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, il s'agit du premier film d'un réalisateur habitué au documentaire. Autant dire que son film en conserve des aspects. Mercenaire raconte l'histoire de Swan, jeune Wallisien, un habitant de Wallis dans le Pacifique, qui décide de quitter son père, son île, pour aller jouer au rugby en France. Arrivé en métropole, eh bien, tout ne se passe pas comme prévu et le voilà livré à lui-même. Son parcours dans un petit club du Lot-et-Garonne, à vivre dans un mobilhome, sa rencontre avec une jeune fille, le retour de son ex-agent qui réclame le prix du voyage, eh bien, tout cela va le faire grandir. Mercenaire parle autant de l'émancipation, du passage à l'âge adulte que de la culture wallisienne et du rugby. Tourné avec des comédiens amateurs, donc Mercenaire est une plongée dans la culture wallisienne. On rencontre le monde du rugby, ses joueurs internationaux payés au prix faible ou encore eh bien, son dopage toléré. C'est aussi le récit donc, de l'émancipation pardon, du passage à l'âge adulte. Sacha Wolfe, le réalisateur, nous parle de la part documentaire du film et de ce qu'il voulait montrer du rugby.
Tu crois quoi, là ? Que je vais te trouver un contrat comme ça en claquant des doigts, là ? Pourquoi t'es pas rentré au pays ?
T'es fier de moi, non ?
T'horrible.
Sur chaque impact, on avance !
T'es un All Black ?
Je suis français. Wallis, c'est la France.
Il y a une grande part documentaire dans l'écriture et dans la préparation, on va dire, du film, et aussi, c'est vrai, dans le travail avec les comédiens. Après, c'est de la fiction. C'est-à-dire que j'ai voulu un moment m'éloigner de toute cette matière documentaire que j'avais accumulée pour aller vraiment vers un récit très écrit, vers une sorte de, voilà, de récit initiatique qui peut aussi s'apparenter à une tragédie familiale. Et même s'ils sont proches dans la vie, les comédiens, de ce que je leur demande de jouer, c'est toujours de la composition quand même. Toki, par exemple, qui joue le rôle de Soane, il n'a pas eu du tout cette histoire. Je pense que lui, son père, était très content qu'il parte en métropole. C'est la même chose avec, par exemple, le président de Fumel, qui, voilà, que je fais jouer. Je m'appuie, en fait, sur ce qu'eux sont pour, on va dire, enrichir mon scénario. Par exemple, pour revenir encore une fois sur le président du club de Fumel, j'aurais jamais pu écrire le personnage comme ça. J'ai fait des essais avec des comédiens, et à chaque fois, j'avais l'impression que j'allais, du coup, vers des stéréotypes un peu. Et lui, en fait, il m'apporte tout son vécu, tout ce que lui connaît de ce milieu-là, et qui me permet, en fait, de l'ancrer dans quelque chose que moi, je peux pas écrire. Je peux pas écrire son zozotement, je peux pas écrire la façon qu'il a de parler. En fait, c'est lui qui me l'amène, et du coup, je dois l'accueillir, moi, dans mon scénario et dans mon projet de film.
Abraham, ton pilier de 140 kilos, là, qui en a perdu 20 dans l'avion, en tongs, en short, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Je lui prends un billet retour que tu vas me rembourser dans la semaine où tu auras affaire à mes avocats et il repart dans 4 heures. J'en ai assez de tes conneries.
Le sport est un univers qui est très représenté à la télévision, où il y a énormément de codes de représentation liés à la télévision. Moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que le cinéma me permet que la télévision ne peut pas faire. La télévision, dans une retransmission de match, elle ne peut pas rentrer sur le terrain. C'est impossible parce que sinon, elle arrête le match. Et elle ne peut pas non plus placer de micro, si ce n'est sur l'arbitre, ça se fait de temps en temps, mais elle ne peut pas placer de micro sur le terrain. Moi, du coup, l'idée, ça a été de me dire, je ne vais pas suivre le ballon, parce qu'en fait, le principe de mise en scène à la télé, c'est suivre le ballon sans arrêt. Voilà. Les enjeux sportifs, en fait, ne m'intéressent pas. On ne sait jamais quel est le score, on ne sait jamais s'ils vont gagner, perdre. Il n'y a pas d'enjeu autour de ça. Les enjeux, c'est toujours autour du personnage. Et du coup, l'idée était vraiment de rentrer avec lui sur le terrain, et d'être toujours au plus près de lui, de mettre en valeur tous les moments où il n'a pas le ballon, parce que 99% du temps, un joueur de rugby sur le terrain, il n'a pas le ballon, en fait, mais il joue quand même. Et puis surtout, au son, d'arriver à faire exister tout l'environnement sonore qu'il y a autour de lui, les cris, les chocs, la façon dont il s'invective, qui fait que voilà, on est dans quelque chose d'assez immersif, effectivement, et d'assez... on est avec lui sur le terrain.
Tout en temps, Gaëtan !
Les clichés qu'il y a autour du rugby ou les stéréotypes m'intéressaient pas. Bon, déjà, je voulais filmer des vrais rugbymen parce que j'ai l'impression qu'on peut pas tricher avec leur corps. J'avais envie de faire un film avec des mecs entre 120 et 140 kilos, quoi. Je voulais faire un film de gros, en fait. Et ben c'est comme ça qu'on les appelle dans le rugby. Et du coup, ça sortait, il y avait une puissance, quelque chose qui se dégageait, et une beauté, une grâce que j'avais aussi envie de mettre en valeur. Ça m'intéressait, par exemple, dans la troisième mi-temps, de filmer Omar Hassan qui chante un air d'opéra, plutôt que de filmer des mecs complètement torchés au pastis qui racontent n'importe quoi. Le point central du film, c'est le rapport de Soane à son père. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il se libère de tous ses pères. C'est-à-dire qu'il se libère de son père, il se libère de la France, il se libère de l'équipe, il se libère de tout. Les Wallisiens et les gens des îles sont vus ici comme des gens très dociles et comme des espèces de masses, des corps qu'on va pouvoir utiliser et qu'on utilise très souvent pour voilà, remplir un office que d'autres n'ont pas forcément envie de remplir. Et finalement, il y a un moment où moi, je n'ai pas envie de raconter l'histoire d'un bon sauvage. Moi, j'ai envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui se libère et qui, à un moment, dit « Maintenant, je ne serai plus soumis. »
Voilà, vous écoutiez Sacha Wolf, donc le réalisateur de Mercenaires, film eh bien, qui est sorti le 5 octobre et un film qu'on vous recommande ici à Cinérama, comme le Jodorowsky.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Oh mierda! 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 Mierda!
Alors Jodorowsky poursuit son autobiographie romancée et fantasmée après Danza de la Realidad, sortie en 2013, alors que ce dernier retraçait l'enfance de l'artiste entouré d'un père commerçant autoritaire et accro à l'argent et d'une mère effacée qui ne s'exprimait dans le film bien sûr qu'en chantant avec une voix d'opéra. Poesia sin fin débute là où la Danza de la Realidad s'arrêtait. Les parents sont encore présents mais vont petit à petit s'effacer au fur et à mesure que le récit se déroule. D'ailleurs, ils ne représentent pas ce qu'il y a de mieux dans le film, au contraire, on sent un peu de rancœur de la part de l'auteur de La Montagne Sacrée à charger ce père qui considère les poètes, les musiciens, les peintres, les romanciers comme des PD et souhaite seulement que son fils poursuive des études de biologie. Alors heureusement, la fin magnifique tente une réconciliation fictive qui n'a certainement jamais eu lieu dans la réalité. Alors Poesia sin fin raconte avec une belle énergie et un sens du spectacle osé, le parcours de Jodorowsky, jeune adulte aspirant à devenir un poète. Il va rencontrer toute une flopée de personnages étonnants, grotesques, farfelus, qui vont le porter vers les chemins de l'art. Alors cette galerie de silhouettes incroyables hein, de Frixt sortie tout droit justement du Frixt de Todd Browning constitue la sève particulière de ce film candide, rafraîchissant et en même temps d'un autre âge. La liberté de ton et la naïveté avec laquelle Jodo oppose, non sans humour heureusement, la poésie au pouvoir, à l'argent, à la médiocrité de la vie de troupeau, peut paraître datée, voire même prétentieuse, dans cette volonté de ne jurer que par l'art qui nous sauverait de tous les maux. Mais il s'attarde surtout sur ses marginaux déments et accumule les séquences incroyables d'une audace peu courante. Le jeune Jodo fait l'amour à une naine ensanglantée à cause de ses règles. Il rencontre dans un café aux enluminures baroques et irréelles une poétesse extravagante aux formes démesurées, une créature tout droit sortie du Hammarcord de Fellini, jouée d'ailleurs par l'actrice qui incarne sa mère dans le film. Il découvre son hétérosexualité par le biais de son cousin qui lui déclare sa flamme avant de se pendre plus tard, le cousin, hein, pas Jodo. Il va croiser toute une faune d'artistes, fruits de l'imaginaire, foisonnant d'un cinéaste plus vivant que jamais. Alors à la question « quel est le sens de la vie ?», hein, il répond, hein, puisqu'il intervient lui-même à plusieurs intervalles dans le film comme une présence bienveillante. « La vie n'a aucun sens, il faut juste la vivre. » Alors on pourrait aussi reprendre cette phrase en disant que le film n'a aucun sens, ou plutôt qu'il part dans tous les sens, hein, il faut juste le voir. Bref, ce cocktail d'étonnant, de délire, on va dire surréaliste, hein, pourrait devenir indigeste si la mise en scène n'était pas aussi inspirée et inventive. Les décors artificiels et les images colorées, avec toujours cette obsession du sang, perçue comme une métaphore de la célébration de la vie et non quelque chose de mortifère, hein, instaurent une ambiance à la fois jouissive et décadente. Si le film me semble plus réussi que le précédent, d'une facture, on va dire, visuelle parfois étriquée, cela est sans doute dû à la présence du chef opérateur Christopher Doyle, qui compose des plans foudroyants de beauté. Alors l'alchimie entre Doyle et Jodorowsky paraît totale. Pour info, hein, Christopher Doyle, c'est le chef op attitré de Wong Kar-wai, à qui l'on doit les images de In the Mood for Love. Hein. Il a aussi éclairé des films comme Paranoia Park, Hero, ou encore un des derniers Jarmusch, The Limit of Control. Il y a au moins là une idée géniale par plan, hein, une fougue dans la manière de conduire le récit qui estomaque quand on sait que le réalisateur a aujourd'hui 88 ans et qu'il continue à exercer son art en toute liberté. Alors il vient de sortir une BD, tire toujours les cartes du tarot, consulte les gens en tant que psychanalyste et prévoit de réaliser un troisième film pour ce qui constituera donc une trilogie. À la fin de Poesía sin fin, il quitte le Chili pour rejoindre la France, Paris bien sûr, afin d'y rencontrer André Breton. Alors j'ai assez hâte de voir ça, et vous foncez voir Poesía sin fin qui a vu le jour en partie grâce à ses admirateurs par le biais d'un financement participatif.
Eh bien, merci Manu, on passe de Jodorowsky et ses 88 ans au beau Michael Fassbender dans Cinérama.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Et on passe donc à Une vie entre deux océans de Derek Sian France. Traumatisé par la Première Guerre mondiale qu'il a vécue au front, Tom accepte un poste de gardien de phare sur l'île de Janus, un endroit magnifique mais isolé, à plusieurs heures de bateau de la première ville coincée entre deux océans. Alors le précédent gardien aurait tellement souffert de la solitude qu'il aurait même fini par voir des fantômes, devenir fou puis se suicider, mais cela ne va pas pour autant rebuter Tom qui cherche à fuir les hommes pour panser ses blessures. Alors bon, la perspective de me retrouver coincé pendant deux heures dans un phare avec Michael Fassbender, donc qui joue le rôle principal, n'était pas pour me déplaire, mais il rencontre rapidement la jeune Isabelle, interprétée par Alicia Vikander, qui est aussi pleine de vie qu'il n'est tourmentée. Alors comme à cette époque les choses allaient assez vite, hein, ils se marient et s'installent sur l'île, bien décidés à vivre leur amour coupé du reste du monde et à fonder une famille.
Tu sais que le mot janvier vient du mot Janus. Et cette île porte le nom de ce dieu. Il a deux visages, dos à dos. Comme ça, il voit des deux côtés. Et il est torturé par les deux visions différentes des choses. Janvier qui regarde vers la nouvelle année qui commence, et l'autre côté qui regarde celle qui s'achève. Sur cette île, on regarde dans la direction de deux océans différents.
Grâce à ton esprit, notre bébé sera très intelligent.
Et malheureusement, après plusieurs fausses couches, eh bien, ils se rendent à l'évidence, ils ne pourront jamais avoir d'enfants. Alors un jour, lorsqu'une barque s'échoue au pied du phare, avec à son bord un homme mort et un bébé, Isabelle y voit une nouvelle chance de devenir mère et pousse Tom à dissimuler l'incident. Ils élèvent ainsi la petite fille pendant 4 ans, jusqu'au jour où la mère légitime de l'enfant refait surface, les exposant à un terrible dilemme. Alors, Une vie entre deux océans est un film réussi et intelligent de par la pluralité de ses sujets, tous abordés avec une subtilité égale. Il est question de la guerre, de la morale, mais le film interroge aussi sur la maternité. Est-ce que le fait d'être mère passe par les liens du sang ou bien par l'éducation, par le fait d'élever des enfants? C'est de cela surtout dont il est question lors de la seconde partie du film. Le réalisateur Derek Sian France avait déjà dépeint les vicissitudes du couple dans le réussi My Blue Valentine. Il avait ensuite exploré les conséquences dramatiques des non-dits dans The Place Beyond the Pines, Une vie entre deux océans réunit ces deux thèmes. Et puis ce qui ajoute à la beauté du film, c'est naturellement son décor, l'île qui est un personnage à part entière avec ses rafales de vent permanents et les deux océans donc qui l'entourent. La musique du film accompagne parfaitement les plans de cette île très cinégénique. Une musique de devinez qui Alexandre Desplat.
Voilà.
Alors je pense qu'ils sont tous morts, tous les autres compositeurs de musique de film sont morts, il n'y a plus que lui.
Je crois qu'il fait aussi la musique d'Odyssée. Hein.
Mais oui, non, mais il fait toutes les musiques de film, il est sur tous les fronts. Voilà, alors pour cette adaptation du roman de M.L. Stedman, Derek Sian France a su garder ce qu'il fallait de romanesque tout en évitant les clichés, et Dieu sait qu'avec un sujet pareil, c'était quand même assez difficile, mais il maîtrise admirablement l'art de l'ellipse et le sens du rythme à un point que le film parvient à éviter une réalisation académique qui l'aurait rendu sinistre. Alors ceux qui veulent pleurer devant un bon mélo en auront pour leur argent, et ceux qui ne supportent pas qu'on leur tire les larmes auront la satisfaction d'un drame pudique qui évite l'overdose de sentiments. Donc pour moi c'est vraiment une réussite et c'était pas gagné. Bon alors après ça pleure. Hein. Ah ça pleure, ça oui.
Et puis après il reste les admiratrices de Michael Fassbender qui y trouveront leur compte aussi également.
Oui, voilà, enfin les gens qui ont du goût, quoi, tout simplement. Voilà.
On va terminer cette émission eh bien, avec un plan DVD.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Un plan DVD, c'est marrant comme expression.
Bah oui.
Qui sort aussi en Blu-ray, Nos funérailles d'Abel Ferrara. Alors quand Ferrara réalise Nos funérailles, hein, il est à son sommet, il sort de 4 ou 5 chefs-d'œuvre consécutifs, hein, parmi lesquels on peut citer The King of New York, Bad Lieutenant, Snake Eyes et The Addiction. Film de rupture et annonciateur d'une veine plus introspective et difficile d'accès, hein, il s'empare d'un genre ultra codifié, le film de gangster, pour livrer sa vision du monde désespérée, assez fataliste, d'un désenchantement mélancolique qui n'a que peu d'équivalent dans le cinéma contemporain. Alors cette cruelle descente aux enfers, hein, mais s'agit-il d'une descente? Nous ne sommes peut-être plongé directement au cœur de l'enfer sur Terre, hein, souffre donc par des funérailles, Johnny, Vincent Gallo, très sobre, est assassiné dans des circonstances encore inexpliquées. À son chevet, ses deux frères, Ray, interprété par Christopher Walken, et Chase, par le frère de Sean Penn, Chris Penn, décédé depuis, hein, qui semble, au-delà du deuil, développer en eux un fardeau insupportable. Ce n'est pas la joie de vivre qui les étouffe. À leur côté, les silhouettes irradiantes de leur femme ne jurent que par le pardon. Mais la soif de vengeance est inéluctable, non comme un désir, un besoin cathartique, mais comme une nécessité liée à une tradition familiale impossible à esquiver.
Je ne demande pas grand-chose, mais je veux l'assassin de mon frère. Ses motivations ne m'intéressent pas.
Allez !
Christopher Walken.
Si je fais le mal, c'est parce que Dieu ne m'a pas accordé sa grâce pour faire le bien.
Annabella Sciorra.
Ce sont des criminels et il n'y a rien, absolument rien de romantique là-dedans.
Chris Penn.
Ils l'ont tué. Il avait 23 ans et ils l'ont tué.
Isabella Rossellini.
Tu veux qu'on parle?
Benicio del Toro.
Je n'ai rien à voir avec la mort de ton frère.
Et Vincent Gallo. Lié par les liens du sang.
Tuer quelqu'un d'autre ne le ramènera pas à la vie.
Je sais, mais n'oublie pas une chose, il est ma chair et mon sang.
Qui les menèrent à leur perte.
La tragédie familiale se déroule sous nos yeux dans un mélodrame au lyrisme sec, construit sous forme d'aller-retour entre passé et présent, alors confirmant la maîtrise narrative de l'auteur de L'Ange de la Vengeance. Cette puissance du récit est sublimée par une mise en scène limpide, les images sombres et oppressantes du chef-op Ken Welch et la fluidité du montage, alors très beau fondu enchaîné, instaure un climat claustrophobique très cohérent. Alors, la finesse du scénario écrit par Nicolas St. John's, délesté de toute fioriture et histoire annexe, permet à Ferrara de se concentrer sur ses thèmes majeurs, notamment l'autodestruction, la foi, la mort, l'absurdité de l'existence, sur une durée ramassée d'1h35. Alors, rien à voir avec les fresques baroques que sont Le Parrain, Scarface ou Les Affranchis. Ferrara fut spectaculaire, les scènes d'action virtuoses à la Scorsese, ainsi que les enluminures rococo du cinéma rétro, alors l'action se déroule dans les années 40, pour rester au plus près des personnages. Il crée ainsi une connivence entre le spectateur, happé par une ambiance mortifère. Alors au fond, Ferrara contemple avec beaucoup d'empathie ces gangsters comme des vampires décadents. À une différence près, ils sont mortels. Pire, la mort, ce fardeau, est autour d'eux, contaminant leur chair et leur âme. Coincés dans un univers de tradition, d'honneur et de foi, leur vie ne tient vraiment plus qu'à un fil. Alors, aspirés dans un environnement voué à une violence addictive, les frères Tiempo ne pensent qu'en termes de vengeance. Ils ne peuvent envisager le pardon qui leur est complètement interdit. Ce sont des sortes d'âmes damnées, coupables dès la naissance, ou du moins, ils le pensent. Ray est obsédé par le fait de retrouver le responsable de la mort de son frangin. Chase est lui atteint d'un mal héréditaire, celui de la folie de son père. Alors Johnny, Vincent Gallo, enfin que l'on découvre dès les premiers plans dans une salle de cinéma en train de visionner un classique avec Burkhardt, puis dans un cercueil, chercher un échappatoire à son destin tout tracé. Alors il se rapprochait des mouvements syndicalistes et des communistes, mais s'affranchir de sa condition est un leurre pour Ferrara, qui déroule une vision du monde d'une noirceur quand même assez extrême. Alors heureusement pour tempérer ce drame familial, où les hommes sont victimes d'une maladie obsessionnelle, les femmes sont présentes, fragiles mais fortes, seule lueur de bonté et d'espérance. Alors esquissées comme des silhouettes furtives, incarnant une forme d'espoir, certes, évidemment. Et tant pis bon pour le spoiler, tout cela finira très mal, dans un bain de sang absurde et inévitable. Pas de rédemption, ni d'expiation chez Ferrara, que l'on a souvent tort de faire passer pour un cinéaste catholique comme Scorsese. Alors juste de la souffrance, beaucoup de souffrance, et puis la mort, toujours la mort chez lui.
Mais la rédemption, c'était dans Bad Lieutenant.
Oui, mais ça vient un peu de son scénariste, Nicolas St. John's, qui est très pieux. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors ce qu'on peut dire pour finir, c'est que Nos Funérailles, c'est vraiment, on dirait, une fresque minimaliste, sortie un peu d'outre-tombe. Un film somme pour Ferrara, qui réalise peut-être, je pense, son film le plus important en 96. Après, il aura une grande traversée du désert, malheureusement.
Oui. Et on peut dire que le film a moins vieilli que la bande-annonce.
Mais la bande-annonce, elle ne reflète pas du tout le film. Eh oui. Alors, le film sort chez un nouveau petit éditeur qui s'appelle Rimini, dans une copie en Blu-ray qui est juste fantastique.
Voilà, et ça vous permet, chers auditeurs, si vous n'avez pas accès aux salles de cinéma, aux salles obscures, de vous procurer le cinéma qu'on vous conseille.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va falloir contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
À quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors la semaine prochaine, après avoir écouté cette fois-ci Sacha Wolf, nous entendrons Nicole Garcia pour son film Le Mal de Pierre, et puis eh bien, nous parlerons du film des frères Dardenne notamment, et sans doute du Tavernier.
Oui, le voyage au cœur du cinéma français, un documentaire de 3 heures.